indiquer vos coordonnées mail pour éventuellement être dans la mailing list du bête. Voilà.
Shavua Tov, donc. On va parler de la vie de Moshe Rabbeinu, plus précisément d'une tranche de sa vie, de la première tranche de la vie de Moshe Rabbeinu. Les parents de Moshe Rabbeinu, la Torah les présente dans Parshat Shemot, Vayelech Ish mi Beit Levi, Vaikach et Bat Levi. Un homme de la maison de Lévi a pris une fille de Lévi. Ils n'ont pas de nom. Ils sont présentés sans nom. La Torah ne dira, ne donnera les noms de Amram et Yocheved que dans Parshat Vayera. Moshe Feinstein explique, à sa naissance, tout est construit sur la Gemara dans Masechet Sota, Yudbet, Amud Aleph. À sa naissance, Moshe Rabbeinu est Mahoul, il est né circoncis. À sa Brit Mila, il a de la lumière dans toute la maison. Et Moshe Feinstein dit, ses parents étaient certainement très fiers. Mais il était trop tôt pour en attribuer le mérite aux parents. Il fallait attendre que Moshe Rabbeinu ait grandi. Entre-temps, il va y avoir l'épisode avec l'Égyptien. C'est une Messirut Nefesh de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va risquer sa peau dans cette affaire. Il a pris des précautions, il a regardé s'il n'y avait personne qui était susceptible de le dénoncer. A priori, il n'y avait personne. Mais il y avait des Hébreux, pour ne pas dire des Juifs. Il y avait des délateurs, donc. Deux personnes qui, comme vous le savez, le lendemain se sont battues et quand Moshe Rabbeinu a voulu intervenir, l'un dit à Moshe, est-ce que par hasard tu voudrais nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moshe Rabbeinu a compris qu'il était en danger. Il s'est enfui. Et il a bien fait parce que Paro a mis sa tête à prix. En parenthèse, le fait qu'il y ait eu des délateurs, il y a eu deux délateurs dans le clan Israël, ça a permis à Moshe Rabbeinu de répondre à la question à laquelle il ne savait pas répondre. Comment se fait-il que les Bnei Israël souffrent tellement? Il n'avait pas de réponse. Et quand il s'aperçut qu'il y avait des délateurs, il n'avait plus de questions. La délation, évidemment, ça casse la société. Et donc c'est extrêmement grave. Un clan d'Israël qui n'est même pas encore construit est déjà détruit par la présence de ces délateurs. La Torah aurait pu mentionner à ce moment-là Amram et Yocheved. Mais dire à Moshe Feinstein, si Moshe Rabbeinu n'avait eu comme seul potentiel que de s'identifier à la souffrance des Bnei Israël, il est sorti, il a reconnu des esclaves comme étant ses frères. Il faut bien prendre conscience de la situation, c'est un prince égyptien. Après certains midrashim, c'est lui le prince héritier. Il sort du palais, Et il voit les esclaves. Les princes, un prince égyptien, il ne voit pas les esclaves. Il n'existe pas. Lui, non seulement il les voit, mais il les reconnaît comme ses frères. Lui qui a été élevé dans le palais de Paro. Il reconnaît ces gens qui souffrent, il les reconnaît comme ses frères. Si Moshe Rabbeinu n'avait eu que ce seul potentiel d'être capable de s'identifier à la souffrance des Bnei Israël et d'agir avec Messirut Nefesh pour défendre un de ses frères contre le capot égyptien là qui voulait le tuer, les parents auraient pu en être crédités. Ça voudrait dire que les quelques temps que Moshe Rabbeinu a passé, essentiellement comme nourrisson, dans la maison d'Amram et de Yocheved, probablement des contacts qu'il a eus de ci, de là, ont été suffisants pour développer en lui cette capacité d'identification. Ils auraient pu être crédités de cela, les parents. Mais Moshe Rabbeinu avait le potentiel, enfin Moshe à ce moment-là, avait le potentiel de devenir Moshe Rabbeinu. Il avait le potentiel de devenir le leader du clan Israël, le sauveur d'un peuple. Souvent, les parents sont contents de ce que fait leur enfant. Ils ne reconnaissent pas que ce talent chez cet enfant ne fait que révéler qu'il peut eu beaucoup plus. Et leur satisfaction peut entraîner l'enfant à penser qu'il a suffisamment travaillé. De tels parents ne sont que Ish veisha, un homme, une femme. Ils ne méritent pas d'être nommés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aidé leur enfant à actualiser tout son potentiel. Moshe Rabbeinu a actualisé son potentiel lorsqu'Hachem a parlé à Moshe et à Aaron, Vaetzavem, El Bnei Israël Vel Paro. Et il leur a donné des ordres concernant leur attitude par rapport au Bnei Israël et leur attitude par rapport à Paro. Alors seulement, la Torah révèle le nom des illustres parents. C'était un couple peu probable, ce couple d'Amram et de Yocheved. Elle est la fille de Lévi, ben Yaakov, le fils de Yaakov, le troisième fils de Yaakov. Lui, il est le petit-fils de Lévi. Il y a une génération de différence. Vaikach Amram et Yocheved Dodato. Amram a pris Yocheved sa tante, Lo Leisha, pour épouse. Vatelet Lo, et elle lui a donné, on cite ici les deux fils parce que c'est d'eux qu'on va parler, et Aaron vet Moshe. Et là-bas on nous dit, Ushne Chaye Amram, et l'âge d'Amram était 137 ans. Elle, à la naissance de Moshe, elle a 130. À celle d'Amram, de Aaron, pardon, elle a 127. À celle de Myriam, je ne sais pas. Pas de combien, mais enfin, pas très loin de cela. Ils sont donc très vieux. Elle est la sœur de son père. Elle est sa tante. Après Matan Torah, un tel couple était interdit. Un homme peut épouser sa nièce, il ne peut pas épouser sa tante. C'était assez improbable comme couple. Mais bon, ils ont eu cet enfant, et il semble, si on suit l'enseignement de Ramoshe Feinstein, qu'ils ont été capables de le mener à actualiser son potentiel. Je veux parler essentiellement ce soir de trois femmes. Je veux parler de Myriam, je veux parler de Batia, et je veux parler de Tzipora. Myriam est appelée Myriam Hanvia. Elle est appelée Myriam la prophétesse. La question est de savoir quand est-elle prophétesse. Après la Shira des hommes, le pasuk dit Vatikach Myriam Hanvia et Tatov. Myriam Hanvia a pris le tambour, le tambourin, le tof. Et là-bas, elle est présentée Achot Aharon, Myriam Hanvia, la sœur d'Aaron. Elle a pris le tof, cet instrument de musique, en fait. Alors, Rashi dit pourquoi est-ce qu'elle est appelée la sœur d'Aaron et pas celle de Moshe. En ce moment-là, il y avait Aaron et Moshe. Alors Rashi dit, elle est appelée Nevia, sœur d'Aaron, parce qu'elle est déjà Nevia depuis avant la naissance de Moshe. Elle a pris le, j'y reviens tout de suite, elle a pris le tof, Rashi dit, c'est un kli, shelmine zemer. C'est un instrument qui permet toutes sortes d'air, de musique. Chazal disent que les femmes, lorsqu'elles sont sorties de Mitzrayim, elles ont pris avec elles leur toupim, chacune a pris son tof. Parce qu'elles étaient certaines d'avoir à l'utiliser. Elles étaient certaines qu'elles pourraient un jour chanter. Le pasuk dit, Vata'an la'em Myriam. Myriam leur a répondu. Alors, la Shira de Moshe et des hommes, c'était Moshe leur disait quelque chose et eux répétaient derrière lui. Mais la Shira de Myriam, qui était une Shira pour les femmes, le Emek Davar et le Kliyakar et Ababanel aussi disent que elle est présentée comme la sœur d'Aaron et pas de Moshe, parce que le niveau de prophétie de Myriam était égal à celui d'Aaron et pas celui de Moshe. Personne n'est jamais, comme dit le Passouk, arrivé, et personne n'arrivera jamais au niveau de prophétie de Moshe Rabbeinu. Le Rashbam et le Ramban disent que la référence à Aaron, c'est parce qu'on a mis l'aîné. Le Mec d'Avar, il précise un peu plus, il dit, les femmes avaient, en fait, un long shir. Quand elles ont chanté, c'était un long shir qui n'est pas marqué dans la Torah. Il n'est pas écrit parce que c'est un shir qu'elles ont chanté, mais ça n'était pas un shir inspiré comme le reste de la Shira. Seulement le refrain de ce shir, c'est ça, Vata'an la'em Myriam, Myriam leur répondait. Ça, c'était Al-Piruach HaKodesh. Ça, c'était inspiré. Le kli yakar dit qu'elle est devenue une nevia à ce moment. Les femmes, dit-il, étaient comme les hommes. Il y avait Ashrat Ashrina à ce moment-là, une présence divine. Elles, comme les hommes, ont dit Zekeli ve'anveu. Elles ont montré, dit ça, c'est lui, il est mon Dieu. Ce que nous voyons là, ce que nous avons vu à Kriyat Yamsouf, c'est la manifestation de ce Dieu qu'on a connu par ailleurs en Égypte. Seulement, elles sont nevouotes, dont elles neviotes, elles sont des prophétesses, elles ont Ashrat Ashrina, mais pour qu'il y ait Ashrat Ashrina, on doit être dans un état de simcha, un état de joie. Or, dit le Kli Yakar, les femmes ont la douleur de l'accouchement. Et donc, c'est la raison pour laquelle il fallait du tof, il fallait un instrument de musique pour compenser en quelque sorte, et pour les aider à se mettre en joie, si vous voulez, de telle sorte que la Ashrat Ashrina soit possible. Il fait remarquer aussi que le texte porte Vata'an Lahem Myriam. Et la grammaire voudrait qu'on dise Vata'an Lahen Myriam. Elle parle aux femmes. Donc c'est Lahen, pas Lahem. Lahem, c'est les hommes. Alors là, il lui veut dire qu'en fait, comme les femmes étaient au même niveau que les hommes en prophétie, c'était ça qu'on a voulu dire quand on a écrit le Lahem pour dire c'est exactement le même niveau. Et c'est une indication qu'à la fin des temps, comme c'est marqué dans le pasouk de Yeshayahu, 31-21, c'est marqué Nekevat Sovev Gaver. Il y a aussi justement cette égalité entre les hommes et les femmes. La première femme, donc, qui intervient sur la vie de Moshe Rabbeinu, ce n'est pas sa mère, c'est Myriam. Tout le monde connaît le fait que quand Amram a décidé de se séparer de Yocheved, il ne voulait pas avoir d'enfant qui allait servir de brique et être emmuré lorsque les Bnei Israël ne fournissaient pas la quantité prévue, imposée de briques. Donc ils ont préféré arrêter les frais. Alors vous savez bien que cette jeune fille, très jeune fille, Myriam, a prophétisé. Elle a prophétisé que l'enfant de sa mère serait le sauveur du clan d'Israël. Elle a dit à son père, ce que tu fais c'est pire que ce que fait Paro. Paro il tue les garçons. Toi tu tues les garçons et les filles. Et le paradoxe, c'est que son père a écouté. Il a écouté sa fille. Il a réépousé. Et ce dont on nous parle ici, on parle des réépousailles, en fait. Il a réépousé Yocheved. Et il a eu, et ils ont eu Moshe. Quand Moshe est né, qu'il y a eu ces manifestations dont je vous ai parlé au début, son père a embrassé Myriam, il lui a dit, je reconnais ta prophétie. Mais quand il a fallu cacher Moshe, qu'on avait pu cacher parce qu'il était prématuré, on a pu le cacher pendant 3 mois, et qu'il a fallu l'abandonner sur le Nil, alors son père s'est tourné vers elle et il lui a dit, elle est où ta prophétie? Alors, Myriam, Bon, elle ne savait pas ce qui allait advenir, mais elle s'est postée en observatrice. Elle s'est dit, je suis prophétesse, j'ai reçu une prophétie, elle porte sur cet enfant. Quelque chose doit advenir. Donc la première femme qui est à l'origine de la conception de Moshe Rabbeinu, c'est Myriam. La seconde femme, c'est la fille de Paro, Bat Paro, celle qui va s'appeler Batya. Batya, la fille d'Hachem. Personne dans le Tanakh n'a jamais eu le mérite d'être appelée Bat Hachem, la fille d'Hachem. Elle, oui. Elle est la fille de Paro. Elle est révoltée contre son père. Elle n'accepte pas ce décret de tuer les enfants. Certains disent qu'elle appartient en réalité à un groupe qui est attaché au précédent pharaon, à Akhenaton, le fameux pharaon monothéiste, idolâtre mais monothéiste. Elle va garder l'enfant juif, l'enfant hébreu. Les servantes qui l'accompagnent, elle est descendue au fleuve. Elle est descendue, a priori, on pourrait dire pour se laver, pour se rafraîchir. Mais c'est pas ça. Les servantes, dit la Gemara, ont vu qu'elle allait sauver Moshe. Elles lui ont dit, princesse, notre maîtresse, lorsqu'un roi prend un décret, même si le monde entier ne le respecte pas, ses fils, ses filles, sa famille le respectent. Et toi, tu transgresses le décret de ton père. Et la Gemara continue, Ba Gabriel, le Khaftan Bakarka. Le malach Gabriel les a jetés par terre, c'est-à-dire en fait, elles sont mortes. Ils n'ont pas reçu de réponse. Mais nous voudrions savoir pourquoi Batia a décidé de désobéir à son père. Quelles sont les forces, la volonté profonde qui l'ont poussé à s'intéresser à cette boîte flottante et de tendre sa main, la Tishlach Tamata, en direction de la boîte. La Gemara donne deux explications, deux sens du mot Amata. On traduit, elle a tendu sa main vers la boîte en question. Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia s'opposent. L'un dit, Amata, c'est sa main, son bras. Elle a tendu son bras, sa main. Et l'autre dit, une ama, c'est une servante. Elle a envoyé sa servante chercher la boîte, entrer dans le Nil et chercher la boîte. Alors, lui ramener la boîte. Celui qui dit qu'elle a envoyé sa servante, son argument, c'est, il n'a pas écrit Yada. Remarquez, Le mot qu'on aurait dû utiliser, si c'était vraiment la main, le bras, on aurait dû écrire Yada, sa main. Celui qui dit que c'est sa main, alors pourquoi c'est pas marqué sa main? Alors, dit l'Agmara, c'est pour nous laisser entendre que son bras s'est allongé miraculeusement. Elle a fait le geste, et ça a suffi. Hachem fait des nissim pour sauver Moshe. Mais comment Batia pensait-elle atteindre la boîte? D'après la Megillah, 15b, après la Maaseret Megillah, la boîte était à 30 mètres. Et quand elle ouvre la boîte, et qu'elle a pitié de cet enfant, mais d'où cela vient-il? Elle, princesse égyptienne, pour un enfant d'Ebné Israël? Le texte semble dire que la raison, c'est que c'était un enfant hébreu. La Gemara dans Sota dit, Vatare, où elle l'a vu avec lui la Shrina. Vu qu'il était Mahoul, qu'il était circoncis, il y avait une présence divine à cet endroit-là. Une princesse égyptienne peut donc voir la Shrina. Et ensuite, elle le prend. Comment pensait-elle l'élever? Elle vit dans les dépendances ou dans le palais de son père. Elle vit au palais royal, au palais impérial. Comment elle va élever cet enfant? Et le Passouk dit très clairement, Rabbanel le souligne, que dès qu'il a été sevré, il était avec elle. Il était son fils. Le Hamek Davar dit, elle l'a sauvé, elle l'a élevé, comme son fils. C'était son fils. Ensuite, elle lui donne un nom. Moshe Rabbeinu a 7 noms. L'un d'entre eux, c'est celui qu'elle lui a donné. Moshe. Qu'est-ce qu'elle pensait? Si on considère que Moshe est un nom hébreu, elle allait élever un enfant avec un nom hébreu dans le palais de Paro? Alors, Avraham ibn Ezra, il dit que c'est la traduction en hébreu de nom, son nom égyptien, c'était Monio, et Ababanel dit que c'est pas vrai, que Yocheved, c'est Yocheved qui a donné ce nom-là, mais ça c'est pas marqué, c'est le contraire de ce qui est écrit dans le Passouk, ça va pas non plus. Pour mieux comprendre la démarche de Batia, la Gemara dans Maaseret Sota, toujours au même endroit, à Yudbet, on revient sur le verset. Vateret bat paro lirchotz al hayor. La fille de Paro est descendue pour se laver, littéralement ça veut dire sur le yor, sur le Nil. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, Melamed, Sheyarda, Lirchotz, Migilulei, Avia. Le Al, qui est ici, Al, Hayo. Normalement, quand on se baigne dans le fleuve, on ne se baigne pas au-dessus du fleuve. Elle est allée pour se débarrasser des traces d'Avodah Zara de son père. Rashi traduit, c'est une tvila le Shem Gerut. Elle s'est immergée dans le processus de conversion. Il n'y avait pas encore du tout la conversion au sens habituel du terme, on n'avait pas reçu la Torah. Cette tvila, cette immersion était néanmoins l'aboutissement donc d'un long processus. Et d'après la Gemara, la date de cette immersion d'El Sis Sivan. Moshe Rabbeinu est né le 7 Adar. On l'a caché 3 mois, jusqu'au 6 Sivan, le jour de la conversion de Batia. C'est aussi l'anniversaire de ce qui sera par la suite la conversion de tout le clan Israël au Sinaï. 6 Sivan, le jour du don de la Torah. Et le jour de sa conversion, elle rencontre Moshe. Il est un bébé, mais elle rencontre Moshe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Al-Ayor? Il faut que vous vous rappeliez le rêve de Paro. Le rêve à la suite duquel il a appelé Yosef. Paro, quand il rêve qu'il est au-dessus du Nil, Al-Ayor. Mais quand il demande aux interprètes de son rêve, de l'interpréter, il ne leur dit pas qu'il a rêvé qu'il était au-dessus du Nil. Il n'ose pas dire une chose pareille. Le Nil est une divinité. Le Nil est la divinité qui donne à manger à l'Égypte. Les crues du Nil donnaient à manger à l'Égypte. Il n'ose pas dire qu'il est au-dessus de lui. Mais c'est bien ce qu'il voudrait. Alors il dit, j'étais au bord du Nil. Alors évidemment, l'essentiel du rêve passe. Est ininterprétable. Parce qu'ils ne connaissent pas l'essentiel. Et quand Yosef vient et qu'il interprète le rêve, il le lui interprète avec le Al Ayor et pas avec Al Svat Ayor. Et il lui dit tout de suite cette fameuse question qu'on peut se poser, qu'on doit se poser. On t'a appelé auprès de l'empereur, tu es un esclave. On t'appelle pour interpréter le rêve. On t'a donné la permission de donner des conseils. Yosef, il termine l'interprétation du rêve et commence à donner des conseils à Paro. Tu devrais faire comme ci et comme ça. Mais en temps normal, donner des conseils quand on vous a pas demandé de les donner, dans un régime comme celui de Paro, on fait pas. Sa tête reste pas longtemps sur ses épaules. Mais Paro l'écoute. Parce qu'il est en train de lui expliquer comment lui, Paro, va pouvoir être au-dessus du Nil en confiant la gestion de la richesse du produit du Nil à Yosef. Le confier à un noble égyptien, c'est tellement important. Le type, il va prendre le pouvoir. Mais il risque rien avec Yosef. Yosef n'est même pas égyptien. On peut lui laisser le pouvoir. Il ne va pas prendre le pouvoir de Paro. À part le fait que ce n'est pas le problème de Yosef, mais il ne pouvait pas. Ça, il ne pouvait pas aller devenir empereur d'Égypte. Ce n'est pas possible. Et donc, comme ça, Paro est tranquille. Lui, il peut être au-dessus du Nil. Et les comptes, enfin, le reste, c'est l'intendance, c'est rien du tout. C'est n'importe qui peut le faire. Yosef, par exemple. Donc elle a compris que cette histoire d'être au-dessus du Nil, c'était ça, toute l'idolâtrie, c'était ça, être au-dessus du Nil. Alors elle va se libérer, et elle va bien dominer, mais à sa manière, elle va dominer le Nil. Elle ne va pas se plier du tout au Nil. C'était ça ce que faisait Akhenaton, je ne sais pas. Elle ne craint pas les servantes. Le texte ne dit pas ce qu'elle elle aurait pu les tuer ou faire tuer, je ne sais pas. Elle ne s'en est même pas occupée. Au ciel, on s'est occupé de ça. On a réglé le problème. De tous les noms, des 7 noms, enfin des 6 autres noms que Moshe Rabbeinu a, dans Sanhedrin et dans Megillah, des noms qui sont donnés par ses parents, par le peuple, même par Hachem lui-même, c'est le nom donné par Batia qu'Hachem lui-même a repris et qu'il a utilisé dans toute la Torah Pourquoi? Parce qu'elle l'a pris, elle l'a adopté comme son fils. Et son éducation, l'éducation de Batia, celle qu'elle a donnée à Moshe, elle a marqué Moshe. Pourquoi? Parce que ce nom indique le chesed qu'elle a fait avec lui. C'est un acte de chesed, c'est un acte de générosité. Or la Torah, c'est au fond, le chesed, c'est au fondement de la Torah. C'est aussi le but de la Torah. Moshe Rabbeinu, en Gematria, c'est Bigmilut Chassadim. Le Midrash dit, Kalev, le prince, qui s'est révolté contre le projet des Meraglim, des explorateurs. Et elle, qui s'est révoltée contre le projet de son père. Le Midrash dit, Yavo Mored, Vikarta Moredet. Que vienne le révolté et qu'il épouse la révoltée. Kalev a épousé. Kalev a épousé Batia. Et une autre lecture qui dit, lui, il a sauvé le troupeau. Kalev a sauvé le troupeau, il a sauvé le clan d'Israël. Elle a sauvé le berger. Dans Shmot Rabba, on dit, Bisrut Nashim Tzadkaniot Yatsanu Mitzrayim. Nous sommes sortis d'Égypte par le mérite des femmes qui étaient des Tzadkaniot, les justes. En général, dans la Gemara, dans Sota, on a l'impression que la référence, les femmes Tzadkaniot, ce sont les deux grandes sages-femmes, c'est Myriam et Yocheved. Certains disent que c'est Yocheved et Elisheva, ça brûle. On voit qu'il y avait une autre femme, très importante. Et c'est peut-être elle qui a fait la plus grande révolution, en se révoltant contre son père. Elle qui a tout abandonné pour s'approcher du peuple d'Israël, qui a donné à Moshe Rabbeinu son nom. Il n'y a pas de doute possible. C'est aussi par son mérite que nous sommes sortis d'Égypte. La prochaine femme, c'est Tzipora. La Torah, elle décrit très brièvement la rencontre Moshe Rabbeinu Tzipora. Au Be'er, au puits. Par opposition, par exemple, à la très longue description de la rencontre d'Eliezer avec Rivka, aussi au Be'er. On voudrait bien savoir pourquoi. Pour bien le comprendre, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller voir ce qui se passe dans l'affaire Zimri. Et la défense, les paroles de défense que Tzipora a dites, c'est la Gemara dans Sanhedrin aussi. Vous vous souvenez? Les gens de la tribu de Shimon ont fauté avec les Midianos. C'est les femmes de Midian. Et bon, il y a eu des grands problèmes, il y a eu des morts. Ils sont allés chez leur chef, chez Zimri, ils l'ont dit, toi tu restes tranquille chez toi alors que ta tribu est en train de se faire décimer. Fais quelque chose. Alors Zimri est venu, il a pris la plus importante des princesses sur lui. il a demandé à Moshe, est-ce qu'elle m'est permise? Et si tu me dis qu'elle ne l'est pas, qui t'a permis ta Midianite à toi? La Midianite de Moshe, c'est Tzipora. Moshe, c'est marqué Nitalma mimenu alacha. Moshe Rabbeinu a oublié la halacha. Il ne savait pas quoi répondre. Probablement il a oublié parce qu'on s'en prenait à lui, alors. Et tout le monde s'est mis à pleurer. Vehema bochim petach oel moed. Rashi dit, la réponse elle est très claire. Moshe Rabbeinu a pris Tzipora avant Matan Torah. Et là maintenant, avec l'histoire de Zimri, on est après Matan Torah. Ok. Anarchiquement, c'est bon. Mais la question, c'est du point de vue de l'exemplarité, comme on dit aujourd'hui. Pourquoi Moshe choisit-il une fille de Midian? Il n'y a pas assez de filles d'Israël pour ça? C'est peut-être ça la question de Zimri. À la limite, c'est ton exemple qui nous pousse maintenant à faire ce qu'on fait. Et peut-être, c'est comme s'il n'y a pas de réponse. C'est comme si Tzipora elle-même se demandait, mais est-ce que je suis vraiment permise? Et en quoi suis-je différente des filles de Midian qui sont là? Alors elle se pose probablement la question, mais sur un ton complètement différent. La musique est autre. Ils ne connaissent-ils pas la différence? Ne connaissent-ils pas le lien particulier entre moi et Moshe? Ne savent-ils pas ce qui s'est passé à Midian? Qui a sauvé Moshe? Et comment je suis devenu son épouse? Quand on lit le récit dans la Torah, on a l'impression que Moshe Rabbeinu, quand il est devenu persona non grata en Égypte et qu'il a fui, il est allé directement chez Yitro. Et puis le verset dit, il a rencontré Tzipora au puits, c'est une affaire qui marche, et ils se sont mariés. Mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Moshe est arrivé au BR, comme dit le pasouk, il y avait évidemment les bergères, les filles de Yitro qui étaient bergères, qui avaient puisé de l'eau, etc. Arrivent les bergers qui les chassent, qui leur prennent l'eau. C'est Moshe qui les a sauvés. Elle rentre chez elle et Yitro dit, mais comment ça se fait que vous arrivez si tôt? Il dit, il y a un Égyptien qui nous a sauvés. Il dit, mais vous l'avez laissé là-bas? Appelez-le, qu'il vienne manger avec nous. Alors on a appelé Moshe. Manger avec eux. Évidemment, ils ont commencé à discuter. Et Yitro a pris Moshe. Il l'a jeté dans un trou. Yonatan Menouziel, le Targum Yonatan Menouziel dit. Et le Midrash Yalkut Shimoni dit la même chose. La raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a été jeté dans le trou, c'est que Yitro a entendu, de la bouche de Moshe, que parole poursuivait, qu'il était recherché pour meurtre. Alors Yitro vous souvenez, Yitro, c'est un des trois conseillers de Paro. Ceux qui étaient conseillés au moment où la décision a été prise de jeter les garçons dans le fleuve. Il y avait trois conseillers. Il y avait lui, Yitro, il y avait Bilham, et il y avait Iov. Celui qui a proposé la solution, les garçons dans le Nil, c'est Bilham. Iov s'est tué. Et Yitro s'est enfui. Yitro, il a dit, je ne supporte pas une chose pareille. Je ne veux pas rester ici. Il est devenu un paria à la société égyptienne aussi. Mais malgré tout, il se sent suffisamment égyptien. Malgré tout. Il applique la loi égyptienne. Il l'a mis dans un trou quasiment pour lui faire crever. Parce qu'il a donné l'ordre qu'on ne lui donne rien à manger ni rien à boire. Le Mme Loez, il dit qu'il y a une autre raison. Parce qu'il y a... Mais ça, c'est déjà discuté. Tout le monde n'est pas d'accord. Certains disent qu'en fait, il n'est pas du tout allé chez Yitro au début. Il est allé à Kouch. Kouch, c'est où, le Soudan ou l'Éthiopie, je ne sais pas. Et les circonstances ont fait qu'il a été couronné comme roi de Kouch. Mais il y avait une condition, c'est qu'il épouse, on ne sait plus si c'est la fille ou la veuve, du roi précédent. Alors formellement, il y a eu un mariage, mais il n'a pas consommé le mariage avec elle. Et des années plus tard, elle a porté plainte contre lui. Du coup, on a dégommé Moshe et on l'a chassé. Le Mme Loez dit que c'est pour cette raison-là qu'il a jeté dans le trou. C'est une autre lecture. Il est resté 10 ans dans le trou. Et pendant 10 ans, c'est Tzipora qui l'a nourri. C'est Tzipora qui lui a donné tout ce dont il avait besoin. Et au bout de 10 ans, elle a dit à son père, tu te souviens de cet hébreu-là que tu as emprisonné il y a 10 ans et dont tu ne t'es plus jamais soucié? Tu devrais envoyer quelqu'un vérifier s'il est encore vivant ou s'il est déjà mort. Yitro lui a dit, après 10 ans, sans manger et boire, alors Tzipora lui a dit, écoute, j'ai entendu que le Dieu des Hébreux est un grand Dieu, puissant. Il fait des miracles. Il a sauvé Abraham de Kasdim, Yitzhak alors que le couteau était sur sa gorge, Jacob dans sa lutte avec l'ange. Et même avec lui, il a fait des miracles. Berceau sur le Nil, sauvé de la main de Paro. Ce ne serait pas étonnant qu'il soit encore vivant. Elle était bien placée pour savoir qu'il était vivant. Bon, Yitro a envoyé des gens, ils l'ont trouvé vivant et en pleine santé, en train de prier Hachem. Ils l'ont sorti de là, ils lui ont mis des beaux habits, et ils l'ont amené au palais d'Yitro. Voilà ce qui... la différence entre les autres filles de Midian et elle. Mais d'où Tzipora a-t-elle eu la force de s'occuper de Moshe contre la volonté expresse de son père? Qu'est-ce qu'elle a vu en lui pour s'occuper de lui pendant 10 ans? Alors évidemment, la première idée qui nous vient, c'est que c'est Hakarat HaTov. C'est la reconnaissance. Moshe les a sauvés, elle et ses sœurs. Sauvés des bergers. Et même si on suit Mme Loez, qui écrit qu'en fait les bergers, et d'autres commentateurs, que les bergers ne voulaient pas simplement leur voler l'eau, mais que les bergers voulaient les violer et finalement les tuer et qu'ils les ont même jetés dans un trou. Donc Moshe Rabbeinu n'est pas seulement sauvé d'éventuelles blessures, mais il leur a sauvé la vie, à elle, Tzipora et à ses sœurs. La question, c'est pourquoi Tzipora seule et les sœurs? Vous savez bien, ça c'est connu, très connu, que quand Hachem a décidé d'envoyer la première des Makot, qui consistait à changer le Nil en sang, Moshe Rabbeinu a refusé de le faire lui-même. Il fallait frapper le Nil. Et Moshe Rabbeinu a dit, le Nil m'a sauvé, je ne peux pas le frapper. Je ne peux pas. Je peux faire une chose pareille. Le Nil, bien sûr, ça lui fait ni chaud ni froid d'être frappé par Aaron ou par Moshe. C'est Aaron, finalement, qui l'a frappé. C'est évidemment pour Moshe lui-même. Le problème de la Hakarat HaTov qu'on doit manifester même à l'égard d'un non-humain, même d'un minéral, c'est pour nous. C'est pas pour lui. L'homme est transformé par son geste de reconnaissance ou transformé par sa non-reconnaissance. Quand Akadosh Baruch Hu Osné a parlé à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, voilà, j'ai décidé de sauver les Bnei Israël et c'est toi qui vas y aller. Toi, tu vas aller les sortir d'Égypte. Moshe Rabbeinu a dit, je ne peux pas. Oh, vous connaissez. Il y a un midrash qui dit, c'est Shmot Rabba, c'est un midrash Rabba, un midrash très connu. Il a dit, Ribon Haolamim, maître du monde, des mondes, je ne peux pas y aller. Yitro m'a accueilli, il m'a ouvert sa maison, il m'a traité comme son fils. Après 10 ans, il faut dire, hein. On n'en parle pas. Et Miché ou Poter, Pitro, le Chavero, Nafsho, le Chayavlo. Si quelqu'un ouvre la porte pour quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre lui doit tout. Ok. Akaratatov. Très bien. Mais Moshe est en train de mettre d'un côté de la balance, sur un des plateaux, Akaratatov à l'égard de Yitro, et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la balance? Sauver le clan Israël. C'est pas seulement sauver le clan Israël. Il doit participer à un processus qui a déjà commencé. Moshe a vu le buisson ardent. Il a vu qu'Hachem a donc commencé à sauver les Bnei Israël qui sont au 49e degré d'impureté. Au 50e, il n'y a plus personne pour sortir. C'est une assimilation complète. Ils sont à la veille de disparaître. Et en fait, seul Moshe, en réalité, peut les sauver. Il peut les amener au Sinaï. Il peut les rapprocher de Kabbalat HaTorah et faire entrer en Eretz Israël. Construire le Beth Amikdash, aller vers la Géoula finale. Et tout ça, pour Moshe, ça ne fait pas le poids contre la Hakarat HaTov. Hakarat HaTov d'un côté et tout ça sur l'autre plateau de la balance. Et Moshe dit non. Chazal disent, à kofer betovat chavero. Celui qui ne reconnaît pas le service que quelqu'un d'autre lui a rendu, Kilu kofer betovat hamakom. C'est comme s'il niait les bienfaits d'Hachem. Ou à l'inverse, dans le côté positif. Reconnaître la tova que l'autre, le bien que l'autre m'a fait, c'est reconnaître le bien qu'Hachem m'a fait. Dans l'intériorité de l'homme, il y a quelque chose qui l'empêche de reconnaître qu'il a reçu quelque chose de quelqu'un d'autre. Et que par conséquent, il est lié d'une certaine manière à ce quelqu'un d'autre. Pour l'homme matériel, pour l'homme courant, qui lui veut recevoir et prendre, il ne veut pas donner. Évidemment, c'est difficile. Il se sent mal, il a honte quand il reçoit. Mais même pour l'homme spirituel, Rouhani donc, recevoir lui est difficile. Parce qu'il veut donner. Et le fait d'accepter lui donne l'impression d'être quelqu'un qui prend. Il ne le supporte pas. Le Rav d'Ebensal, qui est le Rav de la vieille ville d'Yerushalayim, Talmid Mouvak de Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a donné un très très beau machal sujet-là. C'est construit sur la Mishnah de Masechet Orla. Orla, c'est la halakha qui dit qu'on ne peut pas manger les fruits d'un arbre les trois premières années. La quatrième année, il y a un processus. Et pendant 3 ans, on ne peut pas manger les fruits de l'arbre. Maintenant, la Mishnah, là-bas, elle traite le problème suivant. Vous avez une branche d'un arbre. Et cette branche est longue. Donc, ça s'appelle Markota, je crois. C'est juste, Ezra? Non. Ou Harry? On prend la branche et on l'enfonce dans la terre. Markota, oui. Et on la ressort. Donc, il y a une branche qui semble sortir de terre. Et cette branche, elle va fabriquer des racines. Et au bout d'un certain temps, cette branche, elle va se nourrir à travers la racine. Elle ne se nourrira plus à partir de l'arbre dont elle est issue. Voilà. Alors maintenant la question c'est, comment sait-on que la branche se nourrit désormais de la racine et plus de l'arbre? Alors la Mishnah dit la chose suivante. Regarde les feuilles. Si les feuilles sont tournées du côté de l'arbre, ça veut dire qu'elle se nourrit de la racine. Si les feuilles tournent le dos, enfin, à l'arbre, ça veut dire qu'elles se nourrissent encore de l'arbre. Pourquoi? Je ne me suis pas trompé. Pourquoi? Parce que il y a un phénomène de honte à recevoir. Donc la feuille, elle n'ose pas regarder l'arbre tant qu'elle est dépendante de l'arbre. Donc, si maintenant elle le regarde, elle se tourne vers l'arbre. Elle est indépendante de l'arbre. Maintenant elle se nourrit toute seule. Elle peut regarder l'arbre. On voit que même dans le monde végétal, il y a une notion de boucha, une notion de honte. Honte à recevoir. Bien que ce soit tout à fait normal qu'elle reçoive. Il y a une honte. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que la feuille a honte, n'est-ce pas? Mais nous, quand on regarde, c'est ça que nous devons apprendre. D'accord? C'est la même chose que on aurait appris la snioute du chat, etc. C'est pas que ce sont des chats, mais c'est nous qui regardons la chose et qui l'interprétons de cette forme, de cette manière-là, bien sûr. On comprend le refus de Moshe Rabbeinu. À ce qui l'empêcherait de faire du bien à Yitro. Je veux continuer de faire paître les troupeaux d'Yitro. Puisque le manque d'Akaratatov par rapport à Yitro, c'est un manque d'Akaratatov par rapport à Hachem. Le manhig du clan Israël, le leader, le chef du clan Israël, il doit être Nae Doresh, mais aussi Nae Mekayem. Il ne suffit pas d'avoir des belles paroles, il s'agit de les mettre en œuvre. Ça c'est. Alors maintenant vient le pourquoi de Tzipora. Qu'est-ce qu'il a vu chez Moshe? Quand Tzipora et ses sœurs ont voulu remercier Moshe, Moshe leur a dit, l'Égyptien que j'ai tué, c'est lui qui vous a sauvés. Et le Midrash dit, c'est pour ça qu'elles ont dit à leur père, Ish Mitzri Itzilanu, un homme égyptien nous a sauvés. Bien sûr, elles l'ont dit parce qu'elles ont vu qu'il avait un habit. Quand il a fui, il a fui en tant que prince égyptien, il était donc habillé en égyptien. Mais maintenant, le Midrash, lui, il dit, Ish Mitzri, c'est pas Moshe qui nous a sauvés. C'est l'Égyptien que Moshe a tué qui nous a sauvés. Puisqu'il l'avait tué, c'est ça qui a fait que Moshe a dû fuir. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé là, au puits. Et c'est comme ça qu'il a pu les sauver. Donc si tu vas chercher la cause, dit Moshe Rabbeinu, aux filles d'Yitro, la cause c'est l'Égyptien. C'est pas moi. Il met donc au crédit de cet Égyptien qu'il a tué parce qu'il le méritait bien, qu'il a tué parce que il n'y avait aucune positivité, dans cet Égyptien. Vous vous souvenez, le pasouk dit, Vaifen Kovacho, il a regardé à gauche, à droite. Chazal dit, il a regardé toute la descendance potentielle de cet Égyptien. Il n'y avait personne de positif dans toute la descendance. C'est seulement alors que Moshe Rabbeinu a décidé qu'il pouvait le tuer. Il le méritait, mais il aurait été sauvé si dans sa descendance, à la 12e génération, il y avait eu quelque chose de positif, il l'aurait sauvé. Toutes les générations ont été comme porteurs de vie jusqu'à ce que la vie prenne un sens. C'est au crédit de cet Égyptien-là que Moshe a mis le sauvetage des filles de Yitro. On comprend que quand Tzipora entend cette façon de concevoir la Hakarat HaTov, elle sent qu'il se passe quelque chose, elle se sent en phase. Mais tout à coup, elle se dit, mais mon père, quand il a dit, Hakarat HaTov, il faut au moins l'inviter à manger, il vous a sauvé. Mais il avait ajouté, invitez-le, peut-être il va épouser une de vous. Il dit, ah voilà, la Hakarat HaTov de mon père, elle était intéressée. D'accord. S'il n'y avait pas de possibilité qu'il épouse une de vous, on n'a pas besoin de le faire venir. Quand Yitro comprend que Moshe est en fuite, il comprend qu'il a violé la loi. Il l'envoie au trou. Et les sœurs se taisent. si Paul ne l'accepte pas? Est-ce que la Karatatov était seulement intéressée? Donc, elle se révolte. La vérité, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de voir les similitudes entre Tzipora et Batia. Les Chazal disent, c'est un Midrash Talpiot au nom du Zohar, que Batia, la fille de Paro, et Tzipora, la fille d'Yitro, étaient deux sœurs jumelles qui ont été raptées à cause de leur beauté et adoptées comme filles. N'oubliez pas, Yitro, à ce moment-là, était conseiller de Paro. Donc, il avait des privilèges. Donc, ils ont piqué deux filles. Elles étaient très belles. On les a raptées, comme on a rapté Sarah. C'est comme ça qu'on faisait en Égypte. Seulement, ils les ont adoptées comme filles. La vérité, c'est que Yitro n'aura que des filles. Et Paro non plus n'a pas d'héritier. On verra. C'était en fait deux sœurs jumelles même. Le Passouk, dans l'Yalkout, on ramène Vateler Tzipora Bedarkei Bet Israël, Lochasra Davar Meat Sadikot Sarah Rivka Rachel Velea. Va parler de Tzipora et dire que elle a vécu entièrement selon les règles d'Ebné Israël et elle n'était en rien inférieure à Sarah Rivka Rachel Elia. Voilà, je vous ai donné des éléments concernant le début de la vie de Moshe. Bon, il a eu une mère, comme tout le monde, avec un couple qui était peu probable, qu'on a vu. Une première femme qui l'a sauvée, sa sœur Myriam, qui était là avant la conception même. Une deuxième qui lui a permis de survivre et de vivre, c'est Batia. Ensuite, Tzipora qui lui a sauvé la vie et qui va lui re-sauver la vie dans l'épisode de la Mila. Elles ont, en quelque sorte, fait exister Moshe. Sur David HaMelech, on dit que David HaMelech devait vivre 3 heures. C'est tout. La vie lui était donnée pour 3 heures. Et quand Adam Arishon a vu cela, il lui a donné 70 ans de sa vie. C'est pour ça qu'on dit David HaMelech Chai Vekayam. Il vit et il dure. Ce sont deux choses complètement différentes. La vie, ça peut être quelques secondes, des particules qui vivent des vies infiniment petites, infiniment courtes. Il y en a plein. La durée, c'est une autre affaire. La durée pour David, c'est Adam qui la lui a donnée. Et la durée pour Moshe Rabbeinu, c'est la fille de Paro et de Tzipora qui le lui ont donné. La vie, en quelque sorte, elle a été donnée, au niveau conception, était donnée par Myriam, si on peut dire comme ça. Les trois femmes, Myriam, Batia, et Tzipora ont en commun d'être des révoltés. Myriam contre son père, Batia contre son père, et Tzipora contre son père. révolte de Myriam contre son père, si on peut parler comme ça, c'est une révolte interne, une révolte à l'intérieur de la famille. Les révoltes de Batia et de Tsipora sont des révoltes, la révolte contre quelque chose, ça se passe en dehors du clan d'Israël. Par rapport à Paro, par rapport à Yitro. Il y a donc une révolte interne, si on peut parler comme ça. Il y a des révoltes externes qui vont profiter au clan d'Israël. Le clan d'Israël vit grâce à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu vit grâce à ses révoltes extérieures. Il dure grâce aux révoltes extérieures. On a l'impression que la conception, comme je vous ai dit, c'est Myriam, et puis la suite, la vie, c'est Batia et Tsipora. Et quand on y regarde, effectivement, d'un peu plus près, on voit que Batia et Tsipora, finalement, c'est exactement le même cursus. C'est la même chose. Révolte contre le père, sauver Moshe. On pourrait presque se dire que Yitro, ce serait un Paro qui aurait accepté, qui aurait reconnu Hachem. Quand Yitro vient, et comme on l'a vu ce matin, il donne des conseils à Moshe Rabbeinu le lendemain de Kippour. Et il lui dit comment organiser la société, comment organiser du point de vue du judiciaire, en fait. En fait, c'est les tribunaux, mais c'est aussi, en fait, une prise en charge de petits groupes par des responsables. Ils ne servent pas seulement à juger, mais qui vont essayer de les aider à se développer, etc., et toute une hiérarchie. On pourrait très bien penser que cette hiérarchie, elle vient de Yitro, et Yitro, c'est un Égyptien. C'est un Égyptien, quand on dit du mal, quand Moshe Rabbeinu lui raconte ce qui se passe avec l'Égypte, il attrape la chair de poule. Ça le concerne. Ah, il est complètement acquis aux valeurs de la Torah, il est venu se convertir, aucun problème. Il reste quand même quelque chose d'Égyptien, et on pourrait dire, il apporte quelque chose de positif. C'est fondamental, la structure du clan d'Israël pour recevoir la Torah. C'est même étonnant que ce ne soit pas Hachem qui ait donné cette structure-là. Comment recevoir la Torah? Comment vivre avec la Torah si on n'a pas du tout organisé la façon dont le clan d'Israël va pouvoir la vivre, cette Torah? L'accepter, c'est une chose, mais après la vivre au quotidien, comment est-ce qu'on fait? Il faut bien qu'il y ait des structures pour cela. Et les structures, elles sont données par cet Égyptien-là. Ça ressemble aux fameuses étincelles. Un nitzotzot qui se trouve partout dans le monde et qu'il s'agit de faire entrer dans le clan d'Israël, parce que c'est uniquement comme ça qu'on pourra les mettre au service d'Hachem. Donc le savoir-faire de Yitro, qui est peut-être un des artisans de l'organisation de la justice, enfin des tribunaux en Égypte peut-être, au moment où il était conseiller de Paro. Peut-être qu'il est un spécialiste de la question. Moshe Rabbeinu avait des raisons de faire autrement. Mais finalement, il se rallie à la solution d'Yitro. Donc, c'est comme si, quelque part, Yitro, qui est suffisamment proche de Paro pour jeter Moshe Rabbeinu dans un trou parce qu'il a transgressé la loi de Paro, alors qu'il est lui-même un pari à la société égyptienne, Donc il est suffisamment proche de Paro, c'est comme s'il était un nouveau Paro, mais qui aurait été capable d'accepter la Torah, de venir à la Torah. Le fait que Tzipora et Batia et Tzipora soient des sœurs jumelles, ça va encore dans ce sens-là, c'est-à-dire que ces deux sœurs jumelles, ce qui est très important, c'est qu'on ne sait pas d'où elles viennent. C'est-à-dire, le sauvetage de Moshe Rabbeinu par Tzipora et par Batia, on ne sait pas d'où il vient. Puisqu'on ne sait pas d'où elles viennent. Ce sont des filles qui ont été raptées, on ne sait pas d'où elles étaient. On ne sait pas d'où leur vient cette... C'est quoi? C'est Hachem qui a fait les choses. Comme nous disons, la sortie d'Égypte, c'est Akadosh Baruch Hu Bichvodo Be'atzmo, le Alié des Malach, Shliar, Saraf, etc. Là aussi, c'est Hachem lui-même, anonyme. Deux femmes viennent et sauvent Moshe. Alors elles apparaissent comme les filles, bon, c'est la mise en scène. Elles avaient d'autant plus de facilité, de ce point de vue-là, à se révolter contre leur père qui n'était pas leur père. Alors c'est deux choses distinctes. La révolte, tout est dans la révolte. Donc c'est important de savoir que finalement Moshe Rabbeinu est le produit d'une révolte. Il se passe quelque chose de naturel, il y a un couple, peu probable, c'est vrai, de vieillards, etc. Ce que vous voulez, avec un glissement de génération, mais ils sont le même âge quand même, 137, 130 ans, c'est la même chose. Et les voilà, c'est la révolte à l'intérieur du clan d'Israël, dans sa réaction face à l'exil, face à l'esclavage. Comment il faut réagir? C'est une enfant qui répond. Mais elle répond à la différence, c'est que Myriam, c'est Myriam Anevia. Elle parle en tant que prophétesse. Elle est prophétesse à ce moment-là. Ça veut dire que ce qu'elle dit, c'est la parole d'Hachem directement. Ce que disent, ce que font, Batia et Tzipora, c'est pas Hachem directement, c'est pas la parole divine. C'est fondamental, la parole d'Hachem. Myriam, c'est la parole d'Hachem. Donc, la conception, elle se fait par la parole d'Hachem. Tout est parole d'Hachem. Asaram ha'amarot nivra olam. Par 10 paroles d'Hachem, le monde a été créé. D'abord, il y a la parole d'Hachem. Et Moshe Rabbeinu est né par la parole d'Hachem. Bien sûr, ça a passé par un couple. On n'est pas dans l'Immaculée Conception. Ça passe par quelque chose de quasiment normal. Sauf que c'est un peu hors norme quand même. Mais ensuite, on a besoin d'éléments extérieurs. Et quelle est la différence entre Batia et Tzipora? Batia se révolte contre l'idolâtrie. On voit ici quand même quelque chose d'assez important. Trop souvent, nous avons tendance à penser l'idolâtrie, bon, c'est des cinglés qui se prosternent devant des statues ou des choses. Ce qui est grave dans l'idolâtrie, c'est pas ça, ça c'est l'enfantillage. C'est toute la société qui se crée avec ça. C'est toute la cruauté. C'est toute la violence de cette société. Justifiée, c'est tous les passe-droits, etc. Tout ça, c'est l'idolâtrie. Et ça existe partout, cette idolâtrie, cette forme de l'idolâtrie, elle se glisse partout. On est toujours en train d'essayer de sortir de l'idolâtrie. Nous faisons tous les matins une bracha. On demande à Hachem, on demande, « Shelo asani », je ne sais pas ce que vous dites, « Goy, Nochri, Goya, Ovedet Kochavim », enfin, tout ça c'est bon. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans cette bracha? Étant donné que le mot « Baruch » ne veut pas dire « merci », « Baruch » ça veut dire « amplifier ». C'est-à-dire, nous demandons à Hachem d'amplifier ma non-idolâtrie. Parce qu'on n'en a jamais fini avec la sortie de l'idolâtrie. C'est vrai qu'on a franchi un seuil. Le seuil qui permet de dire qu'on est les Bnei Israël. Mais le problème de l'idolâtrie, il est énorme. Il est infini. Tout est objet d'idolâtrie. Tout peut devenir objet d'idolâtrie. Toutes les conduites qui ne sont pas conformes à la Torah. C'est de l'ordre de l'idolâtrie. Il n'y a pas autre chose. C'est la Torah ou l'idolâtrie. Ça n'existe rien d'autre. Et donc, Batia, elle se révolte contre l'idolâtrie de son père. Donc ce problème est un peu réglé, on pourrait dire. Alors contre quoi se révolte Tzipora? Donc la question c'est, qu'est-ce qui se construit? On est en train de construire le phénomène Moshe Rabbeinu. Celui qui va guider le clan Israël, qui va recevoir la Torah pour le clan Israël, il faut le construire, c'est quelque chose qui se construit. On est en train de le construire. Ok, il faut s'arracher à l'idolâtrie. Mais il faut aussi s'arracher à autre chose. C'est ce qu'apporte Tzipora. Qu'est-ce qu'elle apporte Tzipora? Contre quoi est-ce que Tzipora se révolte? Pas l'idolâtrie, son père. Il est en chemin, quand on dit que quand Moshe arrive, il est déjà au bout de sa quête. Il est déjà arrivé à la conclusion que Hachem est plus grand que tous les autres Elohim. Bon, lui, là, je vous passe la comparaison qui est un problème, mais voilà, il dit c'est le plus grand, donc il est déjà acquis à ces idées-là quand Moshe arrive. Mais alors contre quoi elle se révolte? Elle se révolte, je vous ai dit, elle se révolte contre une Hakarat HaTov qui serait intéressée. Hakarat HaTov, c'est la reconnaissance, c'est quelque chose de fondamental. La société, elle doit se construire en tenant compte d'Hakarat HaTov. Mais où l'idolâtrie s'introduit-elle? Dans un Shelo Lishma, en quelque sorte. S'introduit, oui, Hakarat HaTov. Bon, je reconnais, mais quand c'est mon intérêt. C'est notre intérêt. Exprimons notre reconnaissance à ce type qui vous a sauvé. Pourquoi? Parce que si on exprime notre reconnaissance, peut-être que j'arriverai à en marier au moins une sur les sept. Bon, c'est assez difficile de marier cette fille, même quand on est Yitro. Il arrive pas à... Ben bon, c'est pas... Il va peut-être épouser l'une d'entre vous. Et donc toute la Hakarat HaTov, elle tombe à l'eau. Quoi. C'est plus une Hakarat HaTov, c'est un investissement. C'est ça. Quand la Hakarat HaTov se transforme en investissement, ça casse. Moshe Rabbeinu doit se construire avec une véritable Hakarat HaTov. Et c'est là-dessus que Moshe Rabbeinu qui attribue ce qu'il a fait à l'Égyptien plutôt que de se l'attribuer à lui-même. Et elle, qui comprend ce qu'est la Hakarat HaTov de son père, ils se rencontrent. Ils se rencontrent toujours au BR. Pourquoi est-ce que on se rencontre au BR? Il y a trois sources d'eau. Il y a le Ma'ayan, c'est la source, source vive. Il y a le BR et il y a le bord. On appelle le puits, les deux, on les appelle le puits, le bord et le BR. Mais dans le BR, il y a souvent une source qui est au fond du BR. Le bord, c'est simplement un récipient dans lequel l'eau s'est amassée. Mais il y a une construction dans un BR. C'est une source autour de laquelle on a construit quelque chose. Ça veut dire, c'est à la fois ce qu'Hachem donne et la contribution des hommes qui ont construit quelque chose, qui ont fait quelque chose avec ce qui leur a été donné. C'est ça le BR. Et c'est pour ça que les Avot et Moshe Rabbeinu rencontrent la femme avec laquelle ils vont construire quelque chose. La femme leur est donnée. Oui, ils sont donnés à leur femme. Et ensemble, ils vont construire quelque chose. Au départ, mais Hachem Yatsa Adava. Même Lavan y reconnaît ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce qu'on peut faire, c'est aider à construire. Et pas comme ce que Lavan a fait, essayer de détruire ce qu'Hachem avait, ce qu'il avait reconnu lui-même comme quelque chose qui devait être construit. Donc c'est ça, semble-t-il, l'idée. C'est qu'il y a, trois révoltes, une interne, deux externes, mais les deux externes, elles se complètent. Une travaille sur l'idolâtrie, l'autre travaille sur le mauvais usage de bonnes midot, en fait. Le fait que même les bonnes midot, il faut travailler. Le Nusser de Charim dit, surtout, faut pas s'imaginer que quand on est sur le bon chemin, on est tranquille. Le Yetzara, il va pas te laisser tranquille quand tu es sur le bon chemin. La vérité, c'est que le Yetzara ne nous laisse pas tranquille. Même quand on a réussi, quand on a fait une mitzvah, le Yetzara, il n'a pas encore perdu la partie. Si tu t'enorgueillis d'avoir fait la mitzvah, il a gagné. Ah, j'ai fait la mitzvah contre, j'ai lutté contre le Yetzara, j'ai réussi à faire la mitzvah. Ok, mais tu t'enorgueillis d'avoir fait la mitzvah. Fini, c'est l'orgueil, c'est la pire des choses. C'est le problème des hommes. Tu as perdu. Et il a gagné. Donc, on n'a jamais gagné contre les Yetzara. Bon, je sais que c'est pas très enthousiasmant. Mais, bon. Mais c'est la réalité. Il vaut mieux la connaître. Donc, c'est ça, les éléments de la vie de Moshe Rabbeinu, de la construction de Moshe Rabbeinu, avant qu'il reçoive la Torah, avant même qu'il sorte vraiment l'Ebné Israël de Mitzrayim. Mais ça, c'était la nécessaire construction du bonhomme, en quelque sorte, pour qu'il puisse jouer son rôle. Il n'est pas tombé comme ça, tout fait. Et on remarque, ce sont les femmes qui l'ont construit. Les femmes l'ont construit, des femmes qui ont pour ça dû se révolter contre l'autorité paternelle. Intéressant de voir ce qu'elles sont devenues. Avec ça, on va terminer. Myriam et Batia ont toutes les deux épousé Caleb. Caleb a pris deux femmes, à la fois Batia et à la fois Myriam. Et Tzipora, elle est la femme de Moshe Rabbeinu. avec tout ce qu'on verra par la suite.
Peut-être.
Une autre année. Shabbat Tov.
Pour Hidushin.
Le Hidushin, magnifique.